vous écoutez Les Sons de Mars, enregistré par Perseverance, le rover de Mars. Perseverance accomplit sa mission à 400 millions de kilomètres de la Terre, à des températures allant jusqu'à moins 153 degrés Celsius. Il fonctionne parfaitement grâce à l'ingénierie des fluides de Castrol dans ses veines et ses mécanismes. Castrol est fier d'avoir été choisi par la NASA pour travailler dans l'espace depuis plus de 60 ans. Et tout ce que nous faisons dans l'espace est intégré dans tout ce que nous faisons sur Terre. Dans cette série de podcasts, nous allons découvrir des endroits sur notre planète avec une technologie tout aussi avancée. Des endroits avec des machines qui ont besoin de produits Castrol similaires à ceux nécessaires sur Mars. Nous rencontrons des personnes et leurs machines qui travaillent dans les conditions les plus extrêmes de notre planète, sur Terre, en mer et dans les airs. Des personnes chargées des missions les plus difficiles dans le cadre de leur travail quotidien.
Ok, je m'appelle Richard Smith et je suis l'ingénieur en mécanique principal d'une société appelée Onyx. Nous fournissons les solutions de surveillance et d'ingénierie des éoliennes de classe mondiale. C'est un environnement assez inhabituel. Tu navigues en mer sur plusieurs kilomètres et tout à coup, tu tombes sur ces énormes structures qui sortent des fonds marins. Les nacelles, bien qu'on doive les utiliser dans notre travail, ne sont pas vraiment conçus comme des environnements ergonomiques. Il y a des étaux, des boulons qui sortent de partout. Très souvent, les sols ne sont pas plats et sont inclinés. Une situation très inhabituelle, c'est quand on descend des éoliennes de nuit. Il peut y avoir beaucoup de vent et de pluie. Et tu descends. C'est une sensation très étrange, parce que tu descends d'un endroit que tu ne peux pas vraiment voir, vers un autre endroit, tu sais que c'est là, mais tout autour de toi, tout ce que tu vois, c'est les ténèbres infinies. Certaines éoliennes sont montées dans environ 30 mètres d'eau, puis sont coulées dans le fond marin, et tu as environ 100 mètres de tour qui dépassent au sommet. Donc ça peut remuer pas mal en haut. L'un des premiers jours offshore, on est allé sur une ferme qui avait un appareil installé sur le bateau pour vous permettre de descendre du bateau et de monter sur la turbine bien plus facilement. Il s'agissait d'un dispositif qui sortait de la proue du bateau et s'accrochait en quelque sorte à l'éolienne. Puis, il apprenait le mouvement des vagues dans le bateau et fournissait cette plateforme vivante sur laquelle vous marchiez et qui surveillait et réagissait aux vagues. On partait d'un port sujet aux marées. Donc, en gros, une fois qu'on avait quitté le port, on ne pouvait pas y retourner avant que la marée remonte. Le temps qu'on arrive à l'éolienne, j'étais planté à l'arrière du bateau, priant pour pouvoir descendre car je me sentais horriblement mal. Cet appareil a attrapé l'éolienne et s'est cassé. À cause du mouvement violent des vagues, il s'est brisé et ça a échoué. Et le capitaine a juste dit « Bon voilà, on va rester ici jusqu'à ce que la marée remonte. » Et j'ai pensé « Je vais finir à l'hôpital si je reste sur ce bateau toute la journée. Je dois trouver un moyen de descendre de ce bateau. » Donc, on a trouvé des pièces sur le bateau. Je me souviens avoir remis ce système en place en essuyant mon vomi des pièces pour pouvoir les assembler, faire fonctionner ce truc et descendre du bateau. Quand j'ai enfin quitté l'éolienne, je me souviens avoir regardé le bateau et pensé « Ce travail est fait pour moi, c'est absolument fantastique. Quelle façon de gagner sa vie !» Peut-être que tu ne veux pas diffuser ça, mais il m'est arrivé d'être au téléphone avec un client à la maison pour parler d'une mission, puis je raccrochais et vivais ma vie. Et quand je me retournais, ma compagne et ma fille aînée avaient l'air super inquiètes. Je leur demandais « Qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai entendu le coup de fil. Attends, comment tu peux faire ça ? Mais de quoi vous parlez ? C'est tout à fait normal. Et elles stressent parce qu'elles entendent ce sur quoi nous devons travailler et ce qu'il faut résoudre comme problème. Mais ça me semble vraiment être une seconde nature pour moi. Certaines activités doivent être faites dans un court laps de temps. Parce que si les éoliennes sont éteintes trop longtemps, non seulement elles ne génèrent pas d'électricité ni de revenus, mais elles vieillissent aussi très rapidement. Et les composants mécaniques s'usent très très vite si les éoliennes sont à l'arrêt. Elles doivent fonctionner à peu près à plein régime pour rester en bonne santé. Ces éoliennes font les 24 heures du Mans, 365 jours par an pendant 20-25 ans, et n'ont qu'un seul jour au stand de ravitaillement. Le multiplicateur pèse environ 36 ou 40 tonnes. Certaines des plus petites ont la taille d'une machine à laver domestique. Quand ces systèmes, ces trains de transmission tombent en panne, les éoliennes ne font pas juste un bruit de grondement et s'arrêtent. Il y a une énorme libération d'énergie. Quelque chose qui ressemble à une très très grosse explosion. Puis c'est la dévastation absolue. Le multiplicateur peut s'ouvrir en deux. Il peut y avoir des débris partout. Il peut y avoir des dommages collatéraux sur le générateur et les systèmes de contrôle. Je me rappelle d'une fois où j'ai escaladé le système d'orientation jusqu'à l'éolienne. La première chose que j'ai remarquée, c'est qu'il y faisait très chaud, beaucoup plus que la normale. Je me suis retourné et j'ai vu que toute la peinture du multiplicateur s'écaillait. J'ai tout de suite compris que le multiplicateur était extrêmement chaud. Et nous avons pris un échantillon de l'huile, et l'huile est sortie noire, parce que la machine tournait à une température beaucoup trop élevée. Les transmissions d'éoliennes impliquent des défis particuliers. Elles ont des multiplicateurs multi-étages, et chacun de ces étages a ses propres exigences en matière de lubrifiant, ainsi que ses modes de défaillance particuliers. Et il est très important d'optimiser l'huile pour leur bon fonctionnement et pour anticiper l'usure. C'est quelque chose qui intéressait beaucoup Castrol dans la collaboration avec Onyx. Mieux comprendre comment leurs lubrifiants doivent fonctionner et comment ils fonctionnent. J'ai parcouru des millions de kilomètres au fil des ans pour aller dans des fermes éoliennes, voir et résoudre ces problèmes. Va en Amérique du Nord, au Texas ou en Oregon. Tu es au sommet d'une éolienne et peu importe la direction dans laquelle tu regardes à 90 degrés, tu vois 500 éoliennes. Tu tournes la tête de l'autre côté et tu vois 500 éoliennes de plus. Dans certains endroits, en Amérique du Nord ou en Mongolie, il y a des milliers et des milliers de ces éoliennes qui dominent simplement le paysage. La Mongolie, c'était assez bizarre. C'était plusieurs voyages en avion pour aller à l'aéroport, puis un long trajet en voiture jusqu'à la ville la plus proche. Tu conduis une Jeep jusqu'à la ferme éolienne sur une route qui n'existe pas vraiment. Je me souviens avoir pensé que j'étais vraiment au milieu de nulle part. Rares sont les gens qui viennent ici régulièrement. Quand je suis arrivé, j'ai réalisé que ce que j'avais apporté ne convenait pas. Tu comprends vite que tu dois te débrouiller pour que ça marche. Tu ne peux pas juste remballer tes affaires, remonter dans l'avion et rentrer chez toi. Tu es à l'autre bout du monde. Ça sonne un peu désinvolte, mais c'est vrai. La bouilloire est d'une grande aide dans ce genre de situation. Tu allumes la bouilloire, tu fais du thé, et pendant que tu bois, tu réfléchis. Tu regardes les ressources disponibles et tu détermines ce qui est possible ou non. Je crois que cette fois-là, il y avait une couverture ou une bride, plutôt, qui était différente de ce que nous avions compris des dessins et des photos qui avaient été fournis. J'avais des outils rudimentaires avec moi. Et en gros, j'ai fabriqué cette pièce in situ et je l'ai faite rentrer. Puis j'ai remis l'éolienne en état de marche le soir. On ne peut pas simplement dire « pas possible de réparer » pour que le client se contente d'éteindre l'éolienne. Je ne pense pas que ce serait une industrie durable si nous avions cette attitude. Nous avons très rarement un signal téléphonique fiable. C'est généralement intermittent. J'ai trois filles ados, un fils ado, une fiancée et une ex-femme. Et je peux t'assurer que c'est merveilleusement paisible quand je vais dans ces éoliennes. Peu importe le chaos, la crise ou ce qui se passe, c'est relativement paisible. C'est spectaculaire. C'est spectaculaire de s'asseoir au sommet d'une nacelle, surtout dans l'ouest du Texas, au milieu de l'été. Tu cuis littéralement et tu grimpes au sommet. La vue est magnifique quand tu y arrives. Je travaille et je sens cette bonne odeur de cuisine. Je me retourne et le technicien prépare des steaks marinés sur un petit grill à l'arrière de la nacelle. Et à l'heure du déjeuner, tu t'assois sur cette nacelle, tu es attaché évidemment, mais tu manges ce steak, ses haricots et ses pommes de terre. Et tu regardes à travers le désert du Texas et tu penses, je suis payé pour ça. C'est mon boulot, c'est absolument fantastique.
Vous écoutez la série de podcasts Sur Mars de Castrol. Tout ce que nous faisons dans l'espace est intégré dans tout ce que nous faisons sur Terre. Castrol est fier d'avoir plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie de l'énergie éolienne avec des ingénieurs et des mécaniciens partout dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur castrol.com/onmars.